Bonjour et bienvenue. On a tous connu ce moment dans un projet où on avance, on est occupé, mais au fond, on a ce petit doute lancinant. Est-ce qu'on est vraiment en train de faire la bonne chose?
Ah oui, complètement. Aujourd'hui, on se penche sur une idée qui répond à ça de manière assez radicale. Proposée dans un article de David Leblanc, l'idée c'est « Et si chaque action, de la réunion stratégique à l'email envoyé en catastrophe, était en fait une occasion d'apprendre quelque chose de mesurable ?» C'est une approche qui change tout. La source, un article d'Impact Factories, nous invite à voir le travail non pas comme une suite de tâches à accomplir, mais comme une série d'expériences à mener.
Une série d'expériences ?
Voilà. Et David ne propose pas juste une nouvelle technique. C'est une véritable philosophie pour naviguer dans l'incertitude. L'objectif, c'est de décortiquer cette fameuse granularité des tests pour comprendre comment cette mentalité peut transformer notre façon de prendre des décisions.
Alors attends, parce que le mot « test », on l'entend à toutes les sauces, surtout dans le monde de la tech. Ça ressemble beaucoup à la philosophie du « fail fast », du « on lance et on voit », quoi.
Oui.
Qu'est-ce que cette approche de David apporte de vraiment nouveau ? Est-ce que ce n'est pas juste un nouveau jargon pour une vieille idée ?
C'est une excellente question, parce que c'est précisément là que se situe la différence. Le fail fast peut parfois devenir une excuse pour agir sans trop réfléchir.
Un peu, oui.
Ce que David propose est bien plus structuré. Pour lui, un test n'est pas juste une action. C'est une action structurée qui repose sur trois piliers, non négociables.
D'accord. Premièrement, un objectif mesurable. Qu'est-ce qu'on veut savoir et comment on le chiffre ? Deuxièmement, une hypothèse explicite. Quel est notre pari, notre conviction qu'on cherche à vérifier ? Et troisièmement, une boucle de mesure qui mène à une décision claire.
Une décision.
Oui.
Sont ces trois éléments, ce n'est pas un test. C'est juste être occupé.
D'accord, donc on passe de « faisons-le » à « testons cette hypothèse ». Il s'agit d'être intentionnel, mais avec une rigueur presque scientifique. L'action n'est plus le but en soi.
Non.
Elle devient le moyen de répondre à une question. Intentionnel, oui, et je dirais même plus « systématique ». C'est là le vrai changement de paradigme. On ne subit plus l'incertitude, on la dissèque activement. Et pour illustrer comment ça s'applique à différentes échelles, David utilise une métaphore que je trouve très puissante.
Laquelle ?
Celle des poupées russes.
Les poupées russes, j'aime bien l'image. Ça suggère des niveaux qui s'emboîtent. Commençons par la plus grande, j'imagine. La stratégie.
Exactement. La plus grande poupée, c'est le test stratégique, le niveau macro. Son seul et unique but est de s'attaquer aux risques les plus mortels pour un projet.
Les plus gros risques ? Est-ce que notre vision est juste ? Est-ce qu'il y a un marché viable pour notre idée ? Est-ce que les gens sont prêts à payer pour la valeur qu'on pense leur apporter ? Ce sont les questions qui peuvent tuer un projet avant même qu'il ne commence. L'article prend l'exemple d'un projet pour aider les cantines à réduire leur gaspillage alimentaire. L'idée est belle, mais la question qui tue, c'est « Est-ce qu'un gestionnaire de cantine, déjà sous l'eau, va payer pour ça ?»
Précisément. L'équipe formule donc une hypothèse stratégique très claire. Si nous aidons les cantines à réduire leur gaspillage de 20%, alors elles paieront 49 euros par mois pour notre service.
Ok, c'est net. Tout est là. La promesse de valeur, le 20%, et le modèle économique, 49 euros par mois. Et pour tester ça, ils ne codent pas une application pendant des mois, j'imagine. Ah bah, surtout pas. Le test, c'est l'inverse de ça. C'est un simple tableur, un POC, un proof of concept à coût quasi nul, qu'ils donnent à 10 cantines volontaires. Le but n'est pas de tester la technologie.
Mais de tester la promesse.
Exactement.
Mais attends, un simple tableur, est-ce que c'est vraiment suffisant pour valider une stratégie aussi importante ? Ça me paraît un peu léger comme preuve. On pourrait se dire que les résultats sont biaisés, que ce n'est pas la vraie expérience.
C'est tout l'intérêt. La question n'est pas « est-ce que notre app est bien ?» mais « est-ce que notre proposition de valeur est pertinente ?» Et l'objectif mesurable est simple. Au moins 5 des 10 cantines doivent attendre les 20% de réduction.
Ok.
Si elles y arrivent avec un simple tableur, imagine la valeur qu'elles percevront avec un vrai outil. Mais si, avec ce tableur, la réduction n'est que de 5%, le problème n'est pas l'outil. Le problème est fondamental.
La valeur n'est pas au rendez-vous.
Voilà. La valeur qu'on délivre est insuffisante. On vient d'invalider la stratégie avant d'avoir dépensé le premier euro en développement. L'échec de ce test est une information extraordinairement précieuse.
Vu comme ça, c'est puissant. On valide la grande idée avant d'écrire une seule ligne de code. D'accord, donc la stratégie tient la route. Mais une bonne idée peut mourir d'une mauvaise exécution.
Bien sûr.
Entre la vision et le produit final, il y a tout le comment, les opérations au jour le jour. Comment est-ce que cette mentalité de test s'applique là ? On ouvre la deuxième poupée russe, le test opérationnel, ou méso. Et c'est là que l'article devient, à mon sens, le plus contre-intuitif. Parce qu'à ce niveau, l'activité elle-même devient le test. L'activité est le test, c'est-à-dire...
On ne teste pas un produit, on teste un processus, une façon de travailler.
Dans l'exemple de l'article, il parle d'un atelier d'idéation avec des gestionnaires de cantine.
Exactement.
Dans une approche classique, l'atelier a pour but de produire des idées. Point. Ici, l'atelier est le test. L'hypothèse est, un atelier de 45 minutes avec ce format précis et ses 6 participants va générer au moins 4 concepts de fonctionnalités jugés utiles et réalisables. D'accord, l'objectif c'est le nombre de concepts viables.
Oui, si à la fin on se retrouve avec une seule idée vague et 2 participants qui regardaient leur téléphone, l'atelier n'a pas juste été moyen. Le test a échoué.
Et l'échec nous apprend quoi donc ?
Que les gestionnaires n'ont pas de bonnes idées ?
Non, et c'est ça la clé. On ne blâme pas les gens, on questionne le système.
Ah, intéressant. L'échec nous dit soit le format de l'atelier est mauvais, soit les participants n'étaient pas les bons, soit on a mal formulé le problème à résoudre. La décision qui en découle est immédiate. On doit changer notre façon de collaborer. On a testé et invalidé un processus. C'est un apprentissage sur le comment qui est tout aussi vital que l'apprentissage sur le quoi. J'aime cette idée de ne pas blâmer les gens, mais d'améliorer le système. Mais franchement, appliquer ça à chaque micro-décision, à chaque conversation, ça a l'air épuisant.
Ça ne risque pas de tout paralyser, de transformer chaque échange en un interrogatoire formel.
C'est le risque si on le fait mal. Mais c'est là qu'intervient la plus petite poupée russe. Le test atomique, le niveau micro. Et son but est l'exact opposé de la paralysie. Il vise à accélérer en éliminant le bruit et le gaspillage d'efforts.
L'article donne un exemple parfait. Vas-y, je suis curieuse de voir comment ça peut rester simple et rapide.
En pleine réunion, un manager lance une idée. Ce serait génial si on pouvait saisir les données de gaspillage directement depuis notre téléphone.
Approche classique, on crée un ticket, on en discute au prochain sprint planning. Ça prend 3 semaines de débat pour finir au fond du backlog.
Ça sent le vécu.
Totalement. L'approche du test atomique, c'est de réagir en quelques minutes. On formule une micro-hypothèse. Si cette idée est vraiment une priorité, alors d'autres managers réagiront positivement à un message simple et direct sur le sujet. Ok, le test. Prendre 3 minutes pour écrire 2 versions d'un SMS ou d'un message Slack et l'envoyer à 3 autres managers. L'objectif mesurable, obtenir au moins 2 réponses claires en moins de 10 minutes. Et le résultat ?
Silence radio. Personne ne répond.
Ah ! La conclusion est immédiate grâce à cette idée. Aussi séduisante soit-elle sur le papier, n'est une priorité pour personne en ce moment. En 10 minutes, on a potentiellement économisé des jours, voire des semaines de travail. C'est vrai que ça me rappelle un projet où on a passé 3 mois à développer une fonctionnalité complexe demandée par un seul directeur très influent.
Et
personne d'autre ne l'a jamais utilisée. Un simple test atomique de 10 minutes nous aurait sauvé un trimestre.
Voilà, c'est exactement ça. D'accord, là je vois la puissance du truc. C'est une forme d'hygiène de travail pour éviter de s'embarquer sur des fausses bonnes idées. Donc, si je résume en assez 3 niveaux, macro pour la stratégie, méso pour les processus et micro pour les actions du quotidien. Mais j'ai l'impression que la clé n'est pas juste d'avoir ces 3 boîtes, non ?
Tu mets le doigt dessus. La magie n'est pas dans les poupées elles-mêmes, mais dans le fait qu'elles communiquent. David appelle ça la continuité de logique expérimentale.
Continuité. Ce n'est pas un système en 3 étapes. C'est un système intégré. Le résultat d'un test atomique, le silence des managers, ne fait pas qu'invalider une micro-idée. Il nourrit le niveau supérieur, le test opérationnel, en informant sur les vraies priorités. Et si de nombreux tests de ce genre échouent, ils peuvent même remonter jusqu'au niveau stratégique et nous faire douter de notre compréhension du problème de fond.
Donc une simple conversation à la machine à café, si on la pense comme un test, peut avoir des répercussions sur toute la stratégie.
Exactement.
On peut sonder une intuition, poser une question formulée comme une hypothèse et écouter la réponse comme une donnée.
C'est exactement ça. David parle de granularité. Et c'est un bon terme, mais on pourrait aussi bien parler de dimension ou d'échelle d'incertitude. Le mot importe peu. Ce qui compte, c'est d'adopter ce qu'il nomme une grammaire de l'expérimentation.
Une grammaire ?
Oui, un langage commun, qui permet de transformer n'importe quelle action, un email, une réunion, une discussion informelle, en une source d'apprentissage structurée. On ne se demande plus seulement « qu'est-ce qu'on doit faire ?», mais « quelle est l'hypothèse la plus risquée en ce moment ?» et « quel est le plus petit test possible pour obtenir une réponse ?»
C'est un véritable système d'exploitation pour la prise de décision. Ça vise à remplacer l'opinion et la politique de bureau par des données, même à toute petite échelle.
Et ça nous amène au but ultime que David met en avant, qui est le seul véritable avantage concurrentiel durable aujourd'hui.
Qui est ?
Apprendre plus vite que les autres. Pas produire plus vite, pas livrer plus de fonctionnalités. Apprendre plus vite. La vitesse d'apprentissage devient l'indicateur de performance que...
Et une décision.
C'est ça.
Et comprendre que ces tests s'emboîtent du micro au macro pour attaquer l'incertitude de manière systématique et à tous les niveaux.
Le but final, c'est de bâtir ce qu'il appelle une usine à impact. Mais ce n'est pas une usine qui produit du code ou des fonctionnalités. C'est une usine qui produit de l'apprentissage validé.
Une usine à apprentissage.
Voilà. Une organisation qui a institutionnalisé sa capacité à apprendre et à s'adapter en continu.
Toute cette conversation me fait penser à quelque chose. L'article de David est très centré sur le monde de l'entreprise, le développement de produits. Mais cette logique, elle est universelle, non ?
Absolument. Et cela soulève une question importante. Que se passerait-il si on appliquait cette mentalité, et surtout celle du test atomique, à notre propre développement personnel, aux incertitudes de nos vies ?
C'est une piste de réflexion fascinante. Par exemple, avant une conversation difficile avec un proche, on a souvent une hypothèse sur la façon dont l'autre va réagir. Au lieu de se lancer tête baissée, pourrait-on tester une phrase d'ouverture, une approche, via un simple message anodin pour prendre la température, tester une micro-hypothèse sur la meilleure façon d'aborder le sujet.
Ou si on hésite sur un changement de carrière, au lieu de tout plaquer, quels seraient les tests atomiques ou opérationnels pour valider nos hypothèses ?
Contacter 3 personnes du secteur pour un café.
Ça, c'est un test atomique. Suivre une formation en ligne de quelques heures, c'est un test opérationnel. Comment cette grammaire de l'expérimentation pourrait nous aider à naviguer nos propres doutes, bien au-delà des murs du bureau ? C'est une idée qui mérite d'être explorée.